Vous êtes avec SBS French. Il est 13h, on passe au journal, les grands titres de ce mardi 19 octobre. Légère diminution des nouveaux cas de COVID-19 dans le Victoria ce mardi. En Nouvelle-Galles du Sud, la chef de la santé, Dr. Kerry Chant, a déclaré que les autorités s'inquiétaient d'une augmentation des cas dans les régions rurales de l'État. Le Victoria a détecté 1749 nouveaux cas de coronavirus acquis localement ce mardi. Il y a eu 11 décès depuis hier. L'État se rapproche de la fin du verrouillage de Melbourne lorsque les raisons de quitter la maison et le couvre-feu nocturne ne s'appliquent plus à partir de vendredi prochain. Les restrictions devraient s'assouplir le mois prochain, le 5 novembre, lorsque l'État atteindra probablement un taux de double vaccination de 80%. Melbourne et les régions rurales du Victoria vivront sous les mêmes règles. Le chef de l'État, Daniel Andrews, a déclaré que la population avait des besoins complexes. Il a donc débloqué 21 millions de dollars pour aider ceux qui font face à des obstacles à obtenir le vaccin dans le Victoria.
But that last minute push, that push to get to those really high numbers, that has to involve going back and doing more in all of the targeted efforts that you've done to that point. That's where this package comes into its own.
La Nouvelle-Galles du Sud a enregistré moins de 300 nouveaux cas de coronavirus, soit 273 cas, et 4 autres décès dans l'État depuis hier. Les 3 hommes et une femme décédés avaient entre 60 et 80 ans, tandis que 2 d'entre eux n'étaient pas vaccinés contre le COVID-19. La chef de la santé, Dr. Kerry Chant, a déclaré que les autorités s'inquiétaient d'une augmentation des cas dans les régions rurales de la Nouvelle-Galles du Sud.
We're seeing cases in Hunter, New England, around the Lake Macquarie, Wollongong and other regions. So please be vigilant wherever you are across the state. Get vaccinated, but also get tested and stay home if you have COVID symptoms.
L'ACT abandonnera la quarantaine pour les habitants revenant de la Nouvelle-Galles du Sud et pour les arrivées internationales entièrement vaccinées. Les magasins de détail non essentiels rouvrent dans l'ACT à partir du 22 octobre prochain et les masques ne seront plus obligatoires à l'extérieur à partir du 29 octobre. L'ACT a dépassé ce mardi son objectif de vaccination contre le COVID-19 à double dose de 80%. L'ACT a cependant enregistré 24 nouveaux cas de COVID-19 ce mardi. Près de 70% des Australiens âgés de 16 ans et plus sont complètement vaccinés et plus de 84% ont reçu au moins une dose du vaccin. Les citoyens australiens de retour au pays, les résidents permanents et leurs familles immédiates seront les premiers à ne pas faire de quarantaine en Nouvelle-Galles du Sud lorsque les frontières rouvriront à partir du 1er novembre prochain. Et dans le Victoria, fin à la quarantaine aussi dans les hôtels pour les voyageurs internationaux de retour et entièrement vaccinés. Et ils seront autorisés à s'isoler chez eux, dans leur domicile. D'autres changements incluent 7 jours de quarantaine à domicile pour les contacts étroits avec des personnes infectées au COVID-19 plutôt que de 14 jours. Ceci à partir de jeudi prochain. Et puis les Australiens entièrement vaccinés pourront voyager dans le Queensland sans mise en quarantaine à partir de décembre. Mais cela, avant cela, la quarantaine à domicile s'appliquera aux arrivées des autres États en novembre, date à laquelle l'objectif de 70% de double dose devrait être atteint vers le 19 novembre. Ces visiteurs devront toujours être testés négatifs au coronavirus au cours des 72 heures précédentes avant d'arriver dans l'État. La chef du Queensland, Anastasia Palaszczuk, a déclaré que 80% des personnes de l'État devraient être complètement vaccinées à double dose d'ici le 17 décembre prochain.
And I think Queenslanders would acknowledge that that is a sensible and cautious approach to ensure that families can be reunited, but the people coming into Queensland will have to be fully vaccinated.
Le Premier ministre Scott Morrison espère se rendre au pourparlers sur le climat de la COP26 à Glasgow avec un objectif d'émission clair pour 2050, mais il doit encore gagner le soutien des membres du Parti national et de quelques membres du Parti libéral. Certains membres du Parti libéral restent fermement opposés à un objectif, mais Scott Morrison insiste sur le fait que le cabinet fédéral prendra la décision finale. Le chef du Parti national, Barnaby Joyce, a déclaré que son parti a le devoir de défendre les habitants des régions rurales du pays dans le débat sur le changement climatique.
The closer you get to the center of the capital city, it's a different political view. And we respect that. Their view is premised on predominantly white-collar jobs and low-energy requirements, whilst ours in regional areas are predominantly blue-collar jobs that are energy-intensive.
La Russie a suspendu sa mission à l'OTAN et envisage de fermer le bureau de Moscou suite à l'expulsion de diplomates russes. Ce mois-ci, l'OTAN a annulé l'accréditation de 8 responsables russes soupçonnés d'avoir travaillé avec des agents du renseignement. Moscou a rejeté les allégations avec le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, déclarant que l'OTAN se désintéresse d'un dialogue égalitaire.
If NATO has urgent issues, they can address our ambassador in Belgium, who ensures bilateral relations between Russia and Belgium. As I've already said, NATO's international secretary has been informed and will publish a corresponding statement on behalf of the Ministry of Foreign Affairs.
L'ancien secrétaire d'État américain Colin Powell est décédé à l'âge de 84 ans de complications liées au Covid-19. Le reportage de Guillaume Nodin pour Radio France Internationale.
Colin Powell était un homme bien, c'est la conclusion du communiqué de la Maison-Blanche ce lundi. C'était aussi un pionnier, né en 1937 à Harlem et élevé dans le Bronx, deux quartiers noirs de New York. Issu d'une famille d'immigrants jamaïcains, il a surmonté toutes les barrières raciales des États-Unis. Après avoir été un étudiant pas spécialement brillant, selon ses propres dires, il s'engage dans l'armée, part pour le Vietnam, où il est blessé deux fois. Il monte dans la hiérarchie militaire jusqu'à devenir le premier afro-américain et le plus jeune chef d'état-major interarmé. À ce titre, il conçoit et supervise l'opération Tempête du désert lors de la première guerre du Golfe en 1991. L'Irak marquera aussi sa carrière politique. Nommé secrétaire d'État, là encore premier afro-américain à ce poste, il présente devant les Nations Unies un rapport affirmant que l'Irak possède des armes de destruction massive. Ce document, on le sait aujourd'hui, était truffé de fausses informations. Colin Powell disait lui-même que cela resterait une tache sur sa réputation. Bien qu'engagé auprès du Parti républicain, il avait toujours gardé sa liberté de conscience et de parole. Soutien de Barack Obama en 2008 et 2012, il apporte en 2020 son soutien à Joe Biden face à Donald Trump. Pour lui rendre hommage, les drapeaux seront mis en berne jusqu'à vendredi.
Une quinzaine de citoyens américains, des missionnaires et leurs familles, parmi lesquels plusieurs enfants, ont été enlevés en Haïti par un des principaux gangs du pays. Et hier, il y a eu une grève générale dans le pays pour protester contre l'insécurité. Analyse de Frédéric Thomas, politologue et spécialiste de Haïti. Il est sur RFI.
La prolifération des bandes armées, elle est parallèle et elle répond très largement à la protestation sociale qui s'est développée en Haïti depuis l'été 2018, il y a un peu plus de 3 ans, et qui visait la corruption, un mode de gouvernement qui appelait une transition vers un espace public beaucoup plus participatif, vers de véritables changements, vers des politiques sociales. Et la réponse de l'État, à travers son oligarchie, a été la répression directe et indirecte à travers ces bandes armées. Et donc aujourd'hui, c'est le fruit de cette stratégie de contrôle, de répression, de pourrissement. Et donc tant qu'on laissera cette impunité, cette insécurité se développer, il n'y a aucune issue possible. Malheureusement, l'État haïtien, appuyé par l'international, alimente cette insécurité.
En Nouvelle-Calédonie, avec la visite du ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, le week-end dernier, pour entendre les différents partis sur la tenue du référendum sur l'autodétermination du 12 décembre prochain dans le contexte de la crise sanitaire. Les explications de Charlotte Manvi pour RFI.
Les indépendantistes ont officiellement demandé samedi à Sébastien Lecornu le report du référendum prévu le 12 décembre prochain, car si la Calédonie connaît actuellement une légère accalmie sur le front de l'épidémie de coronavirus, celle-ci a déjà fait plus de 240 morts en un peu plus d'un mois. Le territoire a d'ailleurs été totalement reconfiné ce week-end pour tenter d'éviter une nouvelle flambée épidémique. Pour les indépendantistes, impossible de faire campagne dans ces conditions et rien ne garantit que les électeurs se rendent aux urnes s'ils craignent pour leur santé. Un point de vue qui n'est pas partagé par le camp non-indépendantiste qui a remporté les deux précédentes consultations. Pour sa principale composante, l'avenir en confiance, voilà plus de 20 ans que toute la vie du pays tourne autour du oui ou du non à l'indépendance. Alors le référendum doit se tenir le 12 décembre ou bien jamais. Sébastien Lecornu a indiqué aux uns et aux autres que c'est la situation sanitaire qui tranchera la question. Mais quand l'État prendra-t-il une décision ? Rien n'a filtré pour le moment à ce sujet.
Facebook prévoit d'embaucher 10 000 personnes d'ici à 5 ans en Europe pour son projet de métavers. Précision d'Emeline Vin pour RFI.
10 000 emplois créés dans les 5 prochaines années en Europe pour bâtir le Métaverse, une plateforme globale, numérique, qui doit s'imbriquer dans la vie physique grâce à la réalité virtuelle et augmentée. Selon le communiqué de Facebook, en augmentant la dimension de la présence en ligne, interagir virtuellement va se rapprocher de l'expérience d'une interaction en personne dans les domaines du divertissement comme de la vie professionnelle. Facebook, qui possède le groupe de matériel de réalité virtuelle Oculus, compte faire de l'Europe le centre névralgique de la construction de ce métaverse. Ces 10 000 emplois, hautement qualifiés, seront rattachés au siège européen à Dublin, mais la majorité des postes seront disponibles en télétravail conformément à la nouvelle politique de Facebook. L'annonce reste floue sur le nombre de postes permanents à Dublin ou leur intitulé. Mais le communiqué intervient après une ribambelle de titres de presse désastreux entre amendes pour non-respect de la protection des données des utilisateurs et le témoignage d'une lanceuse d'alerte sur le danger des réseaux du groupe sur ses usagers les plus jeunes.
Et on passe à la météo pour ce mardi en Australie. À Perth, il fera 20 degrés. Adélaïde, 25. Melbourne, 18 degrés. Hobart, 13. Canberra, 16. Sydney 21, Brisbane 26, Cairns 34, Darwin 35 et à Alice Springs, maximal de 39 degrés. Un rappel des grands titres de ce mardi 19 octobre, légère diminution des nouveaux cas de COVID-19 dans le Victoria ce mardi. En Nouvelle-Galles du Sud, la chef de la santé, Dr. Kerry Chant, a déclaré que les autorités s'inquiétaient d'une augmentation des cas dans les régions rurales de l'État. Fin du journal et merci de rester avec nous.
En français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.